On se retrouve à trois autour de cette table. Je veux dire me sentir un petit peu dans une position délicate parce que j'ai à ma droite Monseigneur Blacard que vous connaissez bien. Et puis à ma gauche Kevin, qui est quand même un historien, spécialiste. Moi, je ne suis qu'un religieux de Saint-Vincent-de-Paul, aumônier national de la FSE. Je ne suis pas compétent, j'ai pas de don particulier. Bon. Je parlerai donc avec mon cœur quand j'aurai à prendre la parole. Il est question dans la thématique de l'incarnation du sport. Ça peut être très très large, hein. Je pense que chacun a conscience de cela. On peut aborder ce thème sous divers angles. On aura naturellement, je pense, tous les trois un certain nombre de choses à vous partager, mais l'optique étant quand même aussi que vous soyez très réactif. Hein, n'hésitez pas voilà, à prendre la parole, à demander la parole, et que ce soit le plus réactif possible. Hein, d'éviter que. Il y en a un qui parle pendant 15 minutes, puis après l'autre pendant 15 minutes, et puis le troisième pendant 15 minutes, que ça donne lieu à des échanges spontanés. Personnellement, je lancerai peut-être la question en ces termes, et puis je passerai la parole à Monseigneur. Monseigneur Gobillard, ce matin, a fait cette remarque qu'on connaît tous. On dit, ben, a priori, hein, Jésus n'a pas pratiqué un sport, hein. Enfin, pas un sportif tel qu'on l'entend aujourd'hui. Bon, n'a pas fait de sport, a priori. On peut se dire aussi que bah, je peux être chrétien et je peux même être un saint sans être un sportif. De même que je peux être un sportif sans être chrétien et sans être un saint. Donc la place du sport en lien avec la foi, ben, quelque part elle se pose. On dirait, est-ce que c'est vraiment important, alors nécessaire? Est-ce que c'est important, hyper important? Est-ce que ben, c'est chacun son choix? À quel niveau finalement on met le sport en relation avec notre foi dans ce domaine un peu de l'incarnation?
Ben moi, je veux bien dire un petit mot pour
Ben oui.
démarrer, hein, si on lance les affaires. Hein. Ah ben, peut-être que ça marche.
Voilà. Moi, tout de suite, évidemment, incarnation, j'ai pensé bien sûr à l'incarnation de Jésus. Ce qui me semble important, justement, c'est de rappeler que Jésus, il n'a pas pris un corps d'emprunt. Parce qu'on pourrait aussi, voilà, Jésus un peu éthéré. Moi j'aime bien l'expression le Verbe s'est fait chair, quoi. Jésus s'est fait chair. C'est pas Jésus a pris une chair pour voilà pour venir parmi les hommes. Il s'est fait chair. Donc cette union de la divinité de Jésus et de l'humanité, c'est très intéressant par rapport au corps qui est le nôtre et à ses potentialités. Hein, c'est-à-dire que lorsque je vais développer les potentialités de mon corps, ça va peut-être avoir des répercussions sur ma vie spirituelle. Bon, voilà, vous connaissez bien l'adage, un esprit saint dans un corps saint. Mais je pense que les patronages avaient aussi ça en arrière-fond, enfin, de dire. On sait qu'en développant voilà, mais même je pense, alors évidemment, dans une période qui, de fait, enfin, au niveau politique, c'est, voilà, c'était, je ne sais pas du tout l'approbation de la politique, hein, je pense à l'État français, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais par contre, les chantiers de jeunesse, donc vraiment, c'était de dire, on prépare déjà à l'avenir. Puisque même les jeunes qui étaient au chantier de jeunesse, bah c'est eux qui ensuite vont rejoindre l'armée de Delattre quand elle a après le débarquement de Provence, et finalement qui vont. Ces jeunes s'étaient préparés indirectement pour ensuite aider bah, à à libérer notre pays et à vaincre l'Allemagne nazie, voilà. Mais un esprit saint dans un corps saint, et c'est vrai que moi, ma souffrance aujourd'hui, c'est de voir, il en était question depuis ce matin, mais voilà, quand je vois des jeunes avachis, quoi, je pense aussi... Ce que certains ont dit, au fond, est-ce qu'on n'est pas dans une espèce de dégénérescence pour un certain nombre de nos contemporains? C'est-à-dire où on ne pousse plus les potentialités du corps. Quand le pape François dénonce dit aux jeunes, ne soyez pas des jeunes de canapé. Je trouve que c'est des expressions qui sont très justes. Mais moi, j'aime bien dire à mes séminaristes, je vais terminer par là. Voilà, j'espère. Alors, les séminaristes du séminaire d'Orléans, ils viennent de partout, hein, du monde entier. Mais j'espère que vous prendrez tous une suée par semaine, comme vous voulez après. Ça peut être le sport, ça peut être aller couper du bois, ça peut être faire du jardin. Maintenant c'est bien, ils ont monté au séminaire, ils ont monté une salle de sport. Voilà, une salle de muscu, Mais tant qu'on n'a pas éprouvé, tant que je n'ai pas éprouvé les potentialités et les limites de mon corps, je ne me connais pas moi-même. Et combien justement ma chair, mon corps m'a contribué à la personne que je suis. Moi, je me souviens la première fois que j'ai en vélo, le premier col que j'ai vraiment monté, c'était le col de Roncevaux. On était parti à Compostelle en vélo avec 5 copains là. Je crois que j'avais quel âge, 26 ans. Mais j'ai cru que j'allais en maîtrise, quoi. Je crois que c'est je me dis, ce jour-là, je suis allé au bout du bout, mais ça, je pense que ça m'a aidé à me construire après pour la suite, d'être allé au bout de ses potentialités, de l'être incarné que je suis. Voilà, je voulais voir ça.
Juste pour un complément de ce que tu disais, que par rapport au Christ et ses péchés, il n'a pas emprunté une chair. Non. Le fait de dire il a emprunté une chair, c'est une hérésie qui existe dans le monde gnostique de l'hérésie.
Marie n'est pas une mère porteuse non plus.
Non. Ouais. je voudrais dire, Jésus n'a pas pratiqué de sport. Oui, mais est-ce qu'il n'avait pas un esprit sportif?
Le combat sportif.
Parce que c'est ça, le combat sportif, la compétition contre les pharisiens et tout, tu ne cherches pas à les faire de cadeaux quand même, mais tu ne cherches pas à les écraser non plus. Donc il y a ça, et l'ambition, c'est le sport, la compétition, l'ambition, vouloir être le premier, Jésus voulait sauver le monde, c'est quand même une autre ambition que des champions olympiques. Non mais je veux dire, ça c'est important, parce que c'est des notions qui sont un peu mal, moi j'essaie toujours de travailler, peut-on faire du sport en cherchant à battre les autres dans la compétition, et puis vouloir être le premier, c'est de l'orgueil, enfin bref, vous voyez, il y a plein de choses.
Bien sûr.
Comme ça, puis le corps, enfin même quand Jésus marche sur les eaux, est-ce qu'il n'y a pas une certaine puissance de l'esprit sur le corps là quand même? Enfin, ou la transfiguration, le rapport de Jésus avec le corps, il est quand
il
même...
Il est partout.
Il est partout.
Il est partout. Il est partout. C'est quand même le cœur de notre foi, vrai Dieu et vrai homme.
C'est aussi ça qui peut être intéressant quand même. Mais j'arrête là, mais il y a tellement d'autres choses. Ouais. Voilà, l'historien maintenant.
En tant qu'historien, je vais faire quelque chose d'anathème aux historiens. Je vais commencer par le présent, la situation contemporaine. Alors, peut-être, si je peux passer deux, trois images que j'aimerais bien commenter.
Ah oui, regardez ça.
La toute première... Vraiment, ça va aller très vite. Hein. Donc, j'étais très interpellé pendant la période de la Covid, face au vide. J'appelais ça face au vide de la Covid, et puis la suite. Donc, vous voyez bien des stades vides, alors que les stades sont faits pour être des lieux vivants de spectateurs et d'athlètes. Et ce que nous avons vu très très rapidement pendant l'année 2020, et puis ça continue en 2021, c'est que l'humain a réagi à ce vide qui était insupportable. Et ce que j'ai trouvé fascinant, c'était ses premières démarches, vraiment partout. Hein. J'ai tiré des images. Tout en haut à droite, ça vient de Corée du Sud. Ça, c'était l'ouverture de la saison de baseball en 2020, où les supporters de baseball en Corée du Sud, ils ont voulu imprimer avec les effigies de chacun des images pour habiter le stade. Pareil en bas à droite, ça c'est en Taïwan. Même au point où on a rajouté des journalistes et des photographes. Regardez bien en bas. Ce sont des journalistes et des photographes qui sont virtuellement en train de représenter ce que je fais réellement. Et puis à droite, à gauche, vous avez l'image, ça c'est le club de Borussia Mönchengladbach en Allemagne. Donc très connu des années 60-70, etc. Et là, c'est les supporters qui ont chacun payé pour faire leur image dans le stade. Et puis, on voit... Après, presque, ça devient une situation absurde, parce que sur l'image suivante, on voit... Donc ça, c'était une des tribunes absolument remplies de tous les supporters. Donc des images personnalisées de vraies personnes réelles. Par leur présence virtuelle. Donc on n'est pas dans l'incarnation, on est dans une sorte de désincarnation, mais très intéressante. Et mais ça devient presque absurde. Donc là, la troisième image, on voit que les supporters, à la fin du match, c'est pas des vraies personnes. Et pourtant, l'équipe, même les sportifs, sont allés saluer le public virtuel qui n'est pas vraiment là. Et j'ai trouvé ça... Mais je me suis demandé pourquoi. Qu'est-ce qui est en train de se passer ?
C'est quand même une question, parce que est-ce que c'était filmé en même temps et retransmis
Alors, le match, effectivement.
Donc ça aussi a été filmé.
Ça a été filmé, photographié.
Ça change un peu la problématique.
Tout à fait, mais le questionnement est quand même fascinant. Alors après, la dernière... Mais ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que... Ici, nous voyons des supporters, des personnes avec des athlètes, avoir un lien virtuel. On n'est pas dans la présence réelle des gens. Mais au Danemark, ils ont fait des essais où ils ont installé, comme vous voyez tout autour du terrain, des immenses écrans géants où les supporters se connectaient en direct pendant le match par Zoom. Je crois que c'était Zoom. Et ils suivaient le match. Alors, vous voyez les images, c'est des supporters qui sont à la maison, en confinement, chez eux. Mais, voilà, en vrais supporters, en supporters réels. Et ils sont en train de vivre leur match comme ils le feraient normalement, en temps normal. Avec même, vous voyez, il y a le petit jeune ramasseur de balles avec des gants donc sanitaires. On retrouve un peu toutes les images de cette crise. Et puis... Peut-être juste pour passer la vidéo, parce que la vidéo, elle est drôle, elle dure une seconde, il faut juste... Puis là, vous voyez, vous entendez, ils ont fait passer des enregistrements des vrais supporters, des autres matchs, parce que les joueurs, même eux, n'étaient pas capables de jouer, d'exercer leur profession, leur métier, dans le vide total virtuel. Et donc voilà, ça c'était l'équipe d'Aarhus qui était à domicile. Et donc voilà, ça s'est mal passé pour eux au début du match. Et puis finalement, ils perdent 1-0 après 36 minutes, très bien. Et puis à la fin du match, on est dans le temps additionnel. Alors... Et on voit les supporters à la maison, qui exultent, qui s'embrassent, mais dans le stade. Donc, je voyais tout ça. Mais regardez, on est vraiment dans du réel. Et ce que ça m'a... Là, c'est bon, c'est la fin de la vidéo, mais ça m'a énormément interpellé pendant la période du confinement. Et tout ça pour dire, j'ai énormément pensé à la question de l'incarnation, parce que je me suis dit, mais ça montre bien que nous sommes des êtres incarnés. Le virtuel ne suffit pas. Autant pour le sportif qui, lui, alors professionnel, exerce son métier payé par le consommateur, les médias, etc., Mais il ne peut pas lui-même jouer tout seul dans son stade vide. C'est pas possible. C'est insupportable. Et même beaucoup de témoignages pendant les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, il y a eu énormément d'athlètes qui disaient mais je ne pouvais pas courir de la même façon. C'était pas vrai, c'était pas réel. Et donc ça m'a énormément questionné sur la question de notre vraie nature incarnée et sur le parallèle avec la présence réelle. Donc je pense que là, théologiquement, on peut faire des ponts assez intéressants. Peut-être, je laisse ça pour discuter après. Et puis, après, je ferai une réflexion aussi un peu historique. J'ai beaucoup apprécié le rappel du corps et de l'esprit, donc le « mens sana in corpore sano » donc en latin, qui est à la base du mouvement sportif aujourd'hui. Tout ce que nous vivons aujourd'hui comme sport moderne du 19e, 20e siècle, c'est vraiment ancré dans cette idéologie-là du 19e. Et ça répond effectivement à cette question, il y a de l'obésité, il y a la santé, mais je crois qu'il y a une deuxième chose dont on n'a pas encore parlé et qui, je pense, est également une question d'immense importance dans la société aujourd'hui. C'est aussi la question de la désincarnation au niveau de l'identité de nous en tant qu'êtres humains. Alors vous voyez aujourd'hui, peut-être vous suivez un petit peu les actualités sportives, toute la question sous prétexte d'inclusion évidemment, la question du transgenre dans le sport, ce sont des questions d'une importance énorme. Et là, on est vraiment sur des questions d'incarnation et désincarnation. Donc ça m'habite aussi un peu dans la mesure où je pense il a été depuis une vingtaine d'années. Tout un tas d'ouvrages sont sortis sur l'histoire du sport, sur la théologie un peu autour des questions du sport. Mais il me semble qu'une chose manque. Alors, j'ai eu la discussion avec le père José du Vatican hier soir. Alors, il ne m'a pas avoué ce qu'il pensait être, lui, la chose qui manquait. Mais moi, je lui ai dit la mienne. Je pense qu'il manque un pont, justement, pour répondre à ces questions de désincarnation. Un pont entre la théologie du corps, qui a été quelque chose de fantastique de Saint Jean-Paul II, développé depuis finalement peu de temps, qui nous permet de mieux comprendre comment l'homme et la femme sont incarnés dans le monde, vivent le relationnel de manière incarnée. Et donc du coup, je fais le parallèle avec le sport, parce que la théologie du corps, c'est aussi tout le corps. Donc c'est l'activité du corps, pas seulement dans sa... Et là, Jean-Paul II, il va jamais, je pense, assez loin, ou il n'a pas tout à fait le pont directement avec la théologie du corps de l'athlète, alors qu'il parle beaucoup du sport. Mais il me semble qu'il existe une possibilité de développer le lien entre théologie du corps et théologie du sport, surtout pour répondre à ces questions d'identité, de désincarnation, pour revenir peut-être historiquement à ce que nous avons appelé le mens sana in corpore sano. Peut-être je m'arrête là, et puis on peut continuer à discuter, ou je ne sais pas si mes confrères ont envie de réagir.
Pour ma part, je vais peut-être simplement évoquer une rencontre récente. Un jeune, qui s'appelle Francky, c'est comme ça qu'on le surnomme, Francky. Je l'ai connu haut comme trois pommes quand j'étais aumônier de Patro, un garçon qui n'ouvrait pas la bouche. Un problème, un enfermement sur lui-même, n'ouvrait pas la bouche. Bon. Puis maladroit dans son corps, tout fluait. Oh là 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 là. Il a passé donc des années au patro. Et là, je l'ai revu il y a quelques jours. Là, je le regarde comme ça. Il me dépasse d'une tête et demie. Bonne baraque. C'est un Africain de Côte d'Ivoire. Là. Et qui parle, et qui parle, et qui taquine, et qui sourit. Et une métamorphose. Jamais on n'imaginerait que c'était ce petit gars que j'ai connu à 7-8 ans, qui n'ouvrait pas la bouche, et enfermé dans sa timidité, avec des blocages pas possibles. C'est-à-dire que pendant des années, il est allé au patro, et au patro, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on joue, on fait du sport, il a joué au foot, etc. Et je l'ai vu, il était maladroit, vraiment. On ne savait pas où le mettre sur le terrain, le pauvre. Hein. Et là, je l'ai vu jouer, encore une fois, tout récemment. Waouh. Comment dirais-je, il fait mal sur un terrain, quoi. Hein. Il fait mal. Hein. Il fait mal dans le sens qu'il fait mal à l'adversaire, quoi. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Très clairement que c'est un garçon qu'on voit maintenant qui est bien dans son corps, quoi. Très clairement, il est bien dans son corps, et le fait d'être bien dans son corps a conduit au fait que maintenant il parle, il a une relation avec les autres, il taquine, il est à l'aise, il est inséré dans un groupe, voilà. Et y compris au niveau de sa foi. Voilà, c'est un travail de longue haleine, mais enfin, il était sur les bancs de l'église à la messe le dimanche. Cette incarnation du sport dans sa dimension, non pas d'abord de compétition extrême, comme on l'a évoqué, hein, mais d'activité physique, du corps, dans sa dimension de jeu, a conduit à une transformation, encore une fois, quelqu'un qui est maintenant bien dans sa peau, qui fait plaisir à voir. Et qui s'assume au niveau de sa personnalité et au niveau de sa foi. C'est un exemple que je cite, j'en ai d'autres en tête, mais voilà, ça c'est très incarné. Hein. Et je rejoins une dimension qu'a évoquée Monseigneur aussi, qu'est-ce que ça fait? Ça fait pitié, entre guillemets, de voir des jeunes vautrés, avachis, qui sont là, amorphes, qui se laissent aller, qui n'ont pas de punch, qui n'ont pas d'énergie, qui n'ont pas de niaque, comme on dit, quoi. Qu'est-ce que je suis content quand je vois un enfant qui est là sur un terrain de foot, il a vraiment la niaque, alors il faut le canaliser, parce que si l'arbitre siffle, il va râler, il va se mettre en colère. Je préfère 10 000 fois un jeune qui est comme ça, difficile à canaliser, à maîtriser, qu'à la niaque, qu'à la hargne, quoi, comme on dit, quoi. Hein, parce qu'on va dire qu'on peut le... Justement, là, il y a matière à l'éduquer, à l'aider à se maîtriser davantage. Que quand on a un garçon qui fait une fille, ils sont gentils, ils sont très gentils, très polis, tout ce qu'on veut, quoi, mais il n'y a pas cette dimension de combat, de se battre, hein, comme on évoquait, quoi. Hein, mais on se dit, ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir non seulement dans la vie, tout simplement, parce que la vie ne nous épargne pas, c'est difficile, voilà. Mais y compris même au niveau de leur foi. Un chrétien qui n'est pas un battant aujourd'hui, mais comment il va traverser notre monde?
C'est quoi l'incarnation? Définition?
Alors, ça dépend, vous la voulez du côté français ou du côté religieux?
Oui. Parce que ce que je vois sur Larousse, je vais d'abord définir, je regarde, c'est extrêmement religieux, quoi. Ah, pour moi, c'était le rapport au corps.
C'est le rapport au corps.
Donc, voilà. Mais...
Oui, il y a un peu plus que ça. Incarnare, c'est-à-dire être dans la chair. Quoi.
C'est ça. Donc,
voilà. Après. voilà. Et, pour nous, l'incarnation, l'incarnation, c'est Dieu s'est fait homme.
C'est ça,
l'incarnation.
C'est ça qu'on
c'est tout simple. Dieu s'est fait homme.
Il s'est fait homme avec un corps.
Et s'est fait.
Il s'est fait homme avec un corps.
Ben, voilà, on avait dit, c'est pas, simplement... et pas un corps d'emprunt.
Voilà.
Dieu s'est expérimenté par le corps.
Oui. Mais vous rendez-vous compte, c'est extraordinaire. Pour ça, même aujourd'hui, on a besoin aussi de redire, au fond, cette incarnation de Jésus, parce que moi, je sens bien parfois qu'il. Où Jésus, c'est un grand prophète, où Jésus, il est Dieu, quoi. Et comme s'il avait simplement pris une enveloppe, quoi. Mais non. Voilà, cette communion de la divinité et de l'humanité, mais c'est le socle de notre foi chrétienne, quoi. Mais en même temps, c'est prodigieux, parce que ça ouvre à notre humanité des horizons fantastiques, quoi. Grâce à Jésus, bien sûr.
peut-être dans l'autre sens de l'incarnation, je disais tout à l'heure, au lieu de parler des vertus, on peut les montrer. Et ça, pour moi, c'est aussi l'incarnation.
Oui, oui.
L'incarnation des vertus chrétiennes dans la vie quotidienne et dans ce que je suis dans mes échanges avec l'un, avec l'autre. Et quelque part, ma foi, pas seulement en parole. En parole, mais aussi en acte. Et peut-être en acte d'abord avant les paroles. L'attitude, en être, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que la foi a fait de moi finalement, et qu'est-ce qu'elle continue à faire de moi au quotidien.
Il y a une dimension qui est très importante sur l'incarnation. Hein. On est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Or Dieu, le Verbe s'est fait chair, voilà, Dieu s'est fait homme. Il a partagé en tout notre condition d'homme, excepté le péché. Et ça veut dire que quand on a affaire à, quand on est avec les uns et les autres, on est là à dire, mais t'as mal, mais Jésus a eu mal, t'es fatigué, mais Jésus était fatigué. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ce que tu expérimentes, toi, dans ta chair, eh bien, sache que Dieu l'a expérimenté en Jésus. Voilà. Et donc, Dieu te comprend, Dieu sait, Dieu connaît. C'est pas en l'air, quoi.
Peut-être je rajouterai encore un élément par rapport à l'incarnation. Moi, je ne suis pas spécialiste de théologie, mais il me semble que quand Dieu crée l'homme et la femme, il dit que c'est bien. Donc il y a également un élément, un aspect très important sur la c'est pas la nature, mais ce qui est incarné est bon.
Très bon même.
Et c'est vraiment l'opposé, c'est aux antipodes des hérésies. On a évoqué ça, le gnosticisme, c'est pas du manichéisme, c'est pas les hérésies des cathares, mais et tout ça, nous l'avons vécu il y a des siècles passés, et ça revient aujourd'hui. Parce qu'on est dans une société qui... est mal dans le corps. Pour qui le corps est mal? Pour qui le physique est mauvais finalement? Et tout ça, ça s'exprime maintenant dans le sport, dans les salles de sport, dans les questions d'éligibilité, de qualification des athlètes. Parce que qui peut accéder à telle ou telle compétition? Est-ce qu'on est homme ou femme? Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait plus. On ne sait plus d'un point de vue de la société. Et pourtant, on nous a dit au début que c'était bien, qu'on était incarné en tant qu'homme et femme. La société d'aujourd'hui, elle se pose des questions de fond sur des choses qui, jusqu'à présent, étaient plutôt acquises. Je dirais, je vois que le spécialiste va peut-être réagir.
Je vais réagir un peu en bibliste parce que j'ai beaucoup traîné la question. D'ailleurs, on a ressenti la nécessité, quand ce travail collectif a été fait là, par rapport au numérique, de dire, il n'y a pas que de la théologie de la création derrière, il y a aussi l'incarnation, c'est important. Vous avez beaucoup souligné l'histoire, l'absence-présence. Hein. Mm-hmm. C'est des logiques qui existent aussi à travers les lettres de Saint Paul, par exemple. Je ne suis pas là, mais je suis quand même là avec vous. Enfin, bon, voilà. Il y a des logiques tout à fait patientes. Ce que je voudrais dire, c'est que le pape a demandé à ce que, à la commission biblique pontificale, de faire un document sur l'anthropologie biblique. Ça s'appelle « Qu'est-ce que l'homme ?». C'est pas forcément un document aussi facile que ça à lire, mais comme je suis spécialiste des langues orientales anciennes et tout ça, je voudrais vous dire qu'il y a une anthropologie qui est de fond. J'ai vraiment étudié ça à fond. J'ai des gigantesques tableaux avec tout le vocabulaire. Comment ça se dit en hébreu, en araméen, en samaritain, en grec, en machin. J'ai fait un boulot colossal qui débouchera un jour. Mais ce que je voudrais vraiment vous dire, c'est que l'anthropologie du monde sémitique, c'est une anthropologie, on ne dit pas « j'ai ».
Je suis.
D'accord. Mais on dit je suis. On dit pas j'ai encore. On dit je suis chair. Je suis vie. Je suis esprit. Je suis sang. Je suis etc. Vous voyez. Bon. Et même quand on dit comme ça, c'est pas tout à fait juste parce qu'on utilise le verbe être. En fait, dans les langues sémitiques, on arrive à dire les choses en termes non pas d'être ou de devenir, mais on tient les deux en même temps. C'est la logique de l'accomplissement. Le mot, la racine derrière l'accomplissement, c'est le mot shalom, c'est cette racine-là. Quand Joseph est envoyé par son père pour voir comment vont les autres frères et comment vont les troupeaux à Sichem, il dit, va voir comment est le shalom de tes frères et comment est le shalom des bêtes. Parce qu'il y a un shalom des bêtes qui n'est pas le même que le shalom des humains. Hein? En fait, c'est une logique de l'accomplissement. Je trouve que ça change beaucoup les choses. Donc, quand vous faites étude biblique à fond, vous voyez que de temps en temps, on est bien obligé de basculer dans le monde indo-européen, grec, latin, puisque quand Saint Paul va, par exemple, Saint Paul va s'adresser à des communautés de langue grecque, etc. Donc, on va basculer sur le vocabulaire corps, âme entre guillemets, etc. La lecture qui est faite de tout ça est presque toujours dérapante. Parce que c'est une lecture qui est presque toujours dualiste.
Oui.
Et on est avec j'ai un corps et là-dedans j'ai une âme qui loge là-dedans et comment tout ça. On est en plein dérapage. C'est le dérapage des gnostiques qui arrive très vite, très très vite. Donc je veux simplement vous redire que derrière cette anthropologie de la Bible, même derrière tous les textes de Saint Paul, même quand il est question de corps, je pourrais vous faire l'analyse texte par texte pour vous montrer que c'est une anthropologie très fondamentale qui imagine l'humain à l'image de Dieu. Et comme étant capable d'accomplissement. Alors, quand on voit l'humain comme ça, ça change sérieusement les affaires, je trouve. Je trouve que c'est tout à fait fondamental. Et je rajoute une chose que le pape nous demande de faire, c'est de dire, il faut regarder quelles sont les semences du Verbe. C'est-à-dire, l'Esprit-Saint ne s'exprime pas seulement à travers les chrétiens, hein, il s'exprime partout, partout dans le monde. Et à travers les différentes cultures. Et qu'est-ce qu'il y a dans toutes les anthropologies qui existent dans le monde, des différentes cultures, qui peut faire écho à la Bible. Voilà. Là, il y a des choses aussi intéressantes à aller regarder. Je ferme la parole. Je dis ça, c'est parce que quand tu discutes avec un jeune, je me souviens par exemple quand on avait discuté sur les 70 ans des droits de l'homme, on était quoi, 250 à Rome, on travaillait par groupe de trois. J'étais en train, avec un professeur de Tokyo et avec un évêque de la Namibie. Bah pour regarder la réalité des droits de l'homme, je pourrais dire que c'était trois regards, mais franchement, différents. Hein. Voilà. Et donc, on a aussi à apprendre des autres anthropologies, je veux dire par là, il se dit des Dieu dit des choses aussi à travers ça, et qu'il faut aussi aller le chercher. Quoi.
Voilà. Je voulais réagir par rapport à la question de l'anthropologie d'un point de vue historique pour revenir au sport. Parce que, évidemment, le mouvement sportif que nous connaissons aujourd'hui, le mouvement olympique, les valeurs dont on a parlé tout à l'heure, les valeurs olympiques, sont nées dans une période assez intéressante de notre histoire récente, évidemment. On est dans un fin du 19e siècle, avec des mouvements d'universalisme, avec des mouvements d'anthroposophie, hein, qui sont une autre vision de l'anthropologie. On n'est vraiment pas du tout, on est sur une anthropologie coupée de Dieu. Totalement. Et quand je réfléchis aux valeurs souvent associées au mouvement du sport, aller plus haut, plus fort, sitius altius fortius, etc., je trouve difficile de les déraciner de ce contexte dans lequel ce mouvement est né. Même si, moi, j'en parlais peut-être un petit peu demain, mais les origines du mouvement sportif moderne qui sont un peu ancré dans cette chrétienté virile, musculaire, qu'on appelait « muscular Christianity » en anglais, chez les Britanniques du 19e siècle, c'est ancré dans un christianisme. Mais on est déjà dans un christianisme qui va vers le 20e siècle, qui est un christianisme qui passe par Nietzsche, qui est en train de se couper de Dieu, culturellement parlant. Hein. Donc, je trouve intéressant, lorsqu'on parle des valeurs dans le sport, de se poser la question, mais ces valeurs, est-ce qu'elles sont vraiment toujours, encore aujourd'hui, rattachées à ces origines qui sont censées être chrétiennes et incarnées? Bon.
Intéressant. Alors,
Donc, ça me fait penser, voilà, le sport, finalement, est-ce que le sport amène à être un surhomme?
Oui, exactement.
Donc voilà, pour moi, il y a la question du surhomme. Et puis en plus, avec aujourd'hui, on voit tous les films avec effets spéciaux. Donc voilà, cette idée un peu du surhomme. Et parallèlement à ça, je me dis, enfin, toujours se rappeler que l'incarnation, donc, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, grâce à Jésus, pour nous chrétiens. Voilà, c'est saint Irénée hein, qui dit ça, donc voilà, je peux. Et Athanase aussi, voilà. Mais voilà, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Mais c'est pas, voilà, alors est-ce que l'homme devient un Dieu par lui-même et prend la place de Dieu? C'est ça, voilà, ce qu'on va retrouver. Ou bien, est-ce que, alors, c'est là où travailler l'esprit sportif, et donc on voit bien entre eux le monde de la compétition qui peut être impitoyable et dévoyé, en même temps avec aussi toute sa puissance, hein. Ou bien effectivement l'esprit où on va jusqu'à, finalement, on va se dépasser, mais en même temps, on va être conscient de ses limites. Et finalement, ça va, pour moi, il y a un mot qui est important dans le sport, c'est aussi l'humilité, quoi. Alors à la fois, on va au fond, on se donne à fond, et en même temps, est-ce qu'on garde assez d'humilité pour ne pas se mettre à la place de Dieu, quoi.
Oui, non, bon, je voudrais réagir à deux, trois choses. L'incarnation, pour moi, c'est tout ce que vous avez dit, je suis bien d'accord. Moi, je dirais simplement, c'est le réalisme concret. Par exemple, on a des idées, tant qu'on ne les met pas dans des mots, bon, les idées, elles sont, voilà. Et on a des projets, peut-être des projets de pasteur du sport, tant qu'on ne les a pas incarnés dans quelque chose, donc c'est le réalisme. C'est le réalisme concret, voilà, c'est ce que je veux dire ça. Et puis, la deuxième chose que je veux dire sur l'incarnation, on confond l'incarnation avec la matière. Mais le corps, ce n'est pas de la matière, c'est du souffle. C'est de l'énergie, c'est beaucoup d'autres choses. Et que par exemple, Dieu s'est incarné, mais Jésus a donné du souffle avec de l'énergie, c'est battu. Enfin bref, je crois que c'est. Faut pas confondre le corps avec simplement la matière corporelle, quoi. Hein.
C'est la viande.
La viande, oui. La viande. Et y a tout, parce que l'idée du souffle, encore, c'est encore plus important. Hein. Le sport, c'est basé sur le souffle. Alors, le souffle, la création, etc. Voilà. Puis la dernière chose que je voulais dire, c'est par rapport à la présence réelle. Dans ce que tu as dit tout à l'heure, présence réelle, virtuelle, ça ne marche pas, mais il y a aussi la présence réelle d'adversaires.
Oui.
Parce que l'équipe, elle a besoin de public, mais elle a besoin d'adversaires. Et d'adversaires à sa portée. Parce que le match, ils ont gagné à la fin, du coup, mais s'ils les avaient écrasés 10-0, il n'y aurait plus de match, donc plus de sport vraiment. Donc, ça, moi, c'est un des trucs que le sport m'a le plus appris, quoi. On a besoin d'adversaires, on a besoin de concurrents, on a besoin mais de gens contre qui on peut lutter, mais pour progresser. Parce que s'ils sont trop forts, ça ne va pas. S'ils sont trop faibles, ça ne va pas. Donc ça aussi, c'est le sport qui l'apprend. Hein. Donc présence réelle aussi d'adversaires, hein, ou de concurrents, ou je ne sais pas comment.
Voilà. D'émulation.
Et pour qu'il y ait de l'émulation.
Je repartirai de...
J'ai habité pendant 12 ans une ville qui s'appelle Bugis-Saint-Georges, où j'ai vu arriver ce qu'on appelle l'escalade des religions. Donc c'est un lieu un peu unique parce que j'avais arrivé une synagogue, une mosquée et deux pagodes, une pagode chinoise et une pagode laotienne et bientôt un temple hindouiste. Et voilà. Donc c'est les autres religions qui m'ont appris à connaître ma religion. Et c'est la seule qui parle d'un corps. Et il y a beaucoup de groupes scolaires qui passent et qui disent bah, vous êtes les seuls à avoir. Quelqu'un sur une croix, alors que les autres parlent de Dieu, mais on ne voit pas Dieu. Et donc à partir de là, on va dire, mais pourquoi il est là? Mais pourquoi ce Dieu, il est là, sur la croix et est-ce qu'il est toujours sur la croix ou pas? Imaginons, il n'est plus sur la croix, il est dans mon cœur, ou il est dans l'esprit. Mais avant tout, il est passé par là. Alors donc c'est grâce aux autres religions. Alors celui qui est un peu navré de tout ça, c'est celui qui n'est pas croyant. C'est celui qui cherche. La belle idée un peu idéologique, je suis athée. C'est une idée, en fait. C'est-à-dire que quand on a notre croix devant nous, c'est une réalité. Alors après, le croire à la résurrection, c'est compliqué, mais pour certains, mais je dis, en fait, de Dieu, il se fait réalité. Et donc, ça. Les autres religions m'aident à définir Dieu.
Parce que je voudrais qu'on arrive sur un autre terrain.
Je voudrais juste donner deux ou trois petits compléments parce que je crois que c'est important. La première, c'est que quand on dit chair dans la Bible, c'est l'idée de la fragilité. Ça rejoint l'humilité. C'est-à-dire, l'humain, il est à la fois à peine moindre qu'un dieu, dit le psaume,
En même temps, si tu lis l'Apocalypse, de toute façon, tu es pauvre, nu et compagnie. C'est les deux en même temps, quoi. Donc, cette espèce de fragilité, mais avec un potentiel formidable en même temps, hein, voilà, qui nous rend capables de Dieu. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que j'étais très frappé. Emmanuel Gobillard nous a dit un jour qu'il avait discuté avec un philosophe. Et il était très étonné parce qu'il connaissait tous les classements de sport en Italie et compagnie, qu'il est sportif. Et ce philosophe, il est à l'Académie française. Et donc, il s'appelle Jean-Luc Marion. Donc, on a fait faire un article à Jean-Luc Marion. Et Jean-Luc Marion, son article est vachement intéressant. Il est à peu près lisible pour un philosophe. Ce n'est pas toujours facile de lire des philosophes. Il est à peu près lisible. Et il décrit un peu les choses un peu comme un mystère. C'est-à-dire, il dit, quand je fais du sport, alors j'ai un accès à la chair. J'ai un accès un peu au mystère de ce que je suis, dont je ne maîtrise pas tout, quoi, que je découvre aussi au fur et à mesure en pratiquant le sport. Je trouve que ça, c'est super intéressant.
Voilà, quand tu disais Dieu s'est fait réalité, mais nous-mêmes, en faisant du sport, on touche à notre réalité.
Voilà.
Le sport nous aide à nous découvrir nous-mêmes.
Je vais transmettre la tour de ma vie.
J'ai une dernière chose à dire.
Oui. Alors, vas-y,
c'est
alors.
Que quand tu dis la Bible, le mot cher, il est rarement tout seul. Il est presque toujours accolé à un autre mot qui donne des angles de vue différents. Par exemple, il y a avoir chair et souffle. Toi, tu as insisté sur le souffle.
Oui.
Ils vont le dire en même temps, parce que c'est une réalité dite à travers deux mots. C'est très fréquent dans la Bible. Une réalité, mais elle est tellement grande qu'un mot ne suffit pas. Donc, je vais accoler deux mots. Par exemple, droit et justice. Alors, droit et justice, c'est... Nous, on a envie de faire un seul mot, mais non, ils mettent deux mots, parce que ça interagit, quoi. Chair et souffle. Chair et sang. Je pourrais multiplier.
Oui, chair et sang.
Et je pourrais multiplier. Et donc, ça donne des coups d'œil qui sont extrêmement intéressants, parce qu'on regarde la réalité humaine à partir de points de vue différents, en fait. Voilà, c'est pas chair tout seul, c'est chair et quelque chose. Je ferme la parenthèse.
Je voudrais revenir finalement au contexte dans lequel on vit, notre monde là, bien, bien réel d'aujourd'hui, peut-être dégager l'un ou l'autre point d'attention sur l'importance de cette incarnation dans notre vie. On a dit effectivement que est-ce que le sport amène à être un surhomme ? On est dans une société, voilà, comme si l'homme était tout puissant. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est ressassé, qui nous pénètre de partout, quoi. Hein. Je l'évoquais, on n'a plus droit à l'erreur, il faut être sûr de tout. Voilà. Or, ben, le sport, justement, nous rappelle que nous ne sommes pas tout puissants. Notre corps nous impose des limites, nous montre nos limites. Et c'est éminemment important dans le contexte actuel, dire quand on pratique du sport, ben, on sait qu'on n'est pas Dieu. Hein. Voilà. L'autre dimension également qui est notre corps nous fait souffrir. Notre corps nous fait souffrir. On va avoir des courbatures, on va avoir... voilà. La souffrance, elle fait partie du monde. Je ne sais pas si vous touchez ça du doigt, mais enfin, moi j'ai vu des évolutions de société chez les enfants maintenant... Nous, on pouvait avoir mal, bon, la vie continue, on continue sur le terrain, on court, et puis voilà, on a mal. Maintenant, le nombre d'enfants, le moindre petit bobo, le moindre petit truc, ça prend des proportions, comme si on prend un coup là-bas, à la jambe, et au tibia, et puis c'est décrit comme si on vous avait arraché la jambe, quoi. On ne sait plus ce que c'est que la souffrance, physiquement, hein. Physiquement. Le moindre mal, il faut tout de suite des médicaments. Notre corps, le sport, nous rappelle le fait de la souffrance. On n'est pas Dieu, on souffre. Et c'est aussi une école, qui nous permet de vibrer à ceux qui souffrent. D'avoir un cœur qui se dilate, qui a de la compassion avec les autres. C'est éminemment important. J'ajoute aussi... d'autres dimensions qui me paraissent importantes par rapport au monde dans lequel on se trouve, on est immergé. D'abord, le sport, dans une pratique, hein, on est dans une société de peur. De peur, d'indécision et de déresponsabilisation. Je commence à lire un livre qui vient de paraître. J'ai lu un article qu'il présentait, mais submersion. Voilà, c'est pas écrit du tout par un chrétien, c'est je crois le directeur de Arte et qui parle submersion. Il parle de l'indécision. Voilà. Et il va faire cette analyse, qu'on est sollicité de partout. Et il y a des études qui ont été faites, par exemple, que dans un supermarché, vous avez 10 sortes de confitures, et vous avez un autre supermarché, vous en avez 40. Et ben, les gens vont acheter dans celui où il y a 10 confitures, pas dans celui où il y a 40. Et il donne comme élément, il dit qu'on perd 100 jours de notre vie dans l'indécision. Vous rendez compte ? 100 jours de notre vie à ne pas décider tellement on est sollicité. Alors, tout ça pour vous dire que c'est le monde dans lequel on vit. Et ben dans le sport, déjà, ben il faut des automatismes. Ce n'est pas le caprice du moment. Le sport va nécessiter des automatismes, des répétitions. Voilà, ça nous renvoie à l'habitus. Ça nous renvoie à l'habitus, ça façonne. Voilà, hein, les répétitions, les automatismes. Voilà. La deuxième dimension, le discernement. Dans le sport, il va falloir tout d'un coup discerner. Qu'est-ce que je fais ? Quelle option je retiens ? Et troisième niveau, il va falloir décider. Et qui dit décider, dit oser. Et vraiment, dans le monde dans lequel on se trouve, ce n'est pas des dimensions qui sont, entre guillemets, mis en valeur. On se retrouve dans des sociétés où, encore une fois, on a peur, on n'ose plus rien, on ne veut plus prendre de responsabilité, on se laisse conduire partout, on est comme un peu le nombre de gens qui sont comme des moutons de panurge, et puis on suit les médias, on va à droite, à gauche. Le sport nous confronte quand même à toutes ces dimensions-là, quoi. Je pratique du sport, il faut que je répète le sens de l'effort, et puis il faut que je choisisse et il faut que je décide. Et il faut que je décide en fonction d'un objectif, d'un but, quoi. Tout ça est éminemment important, le sport, très concrètement et humainement au jour le jour, mais c'est hyper précieux dans la société dans laquelle on vit.
Je fais deux remarques. La première, c'est par rapport à la souffrance. C'est vrai qu'il y a un rapport à la souffrance qui est plus important dans le sport, et il y a des nuances. C'est-à-dire que quelqu'un, dans un match de boxe, c'est très significatif, mais dans d'autres disciplines comme le 400 également, c'est que quand tu gagnes, tu as moins mal. Les coups que tu as quand tu es en train de gagner ont moins mal que les coups que tu reçois quand tu perds. C'est intéressant parce que globalement, si on va un peu plus loin, vous voyez ce que l'espérance peut apporter ou le sens qu'on peut donner à la souffrance. Le deuxième point que je voulais évoquer, le deuxième point que je voulais évoquer, c'est que tout à l'heure on évoquait le fait de se considérer comme Dieu quand on fait une performance. Alors c'est sûr que si on dessine 2,45 m juste sur le mur et qu'on sait que c'est le record du monde du saut en hauteur, on se dit que c'est inhumain. Et effectivement, il y a une préparation surhumaine pour pouvoir faire 2,45 m ou bien 8,95 m au saut en longueur, c'est inhumain. Et puis la personne qui va le faire une fois. Ouais. Il va faire un truc qu'il n'a jamais fait, en fait. Ouais. Donc, et s'il considère que, en tous les cas, si on arrive bien à réfléchir, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Courir plus vite qu'un autre, comme ça, dans la tenue, ça ne sert pas à grand-chose. Sauter plus haut qu'un autre, comme ça, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, si tu n'as pas le sens, ou en tous les cas, si le chemin qui t'a permis de faire ça, tu ne l'as pas compris ou tu ne l'as pas aimé, c'est-à-dire que tous les obstacles que tu as dû franchir, toutes les difficultés, tous les échecs, si tu ne l'as pas compris, ben c'est grave. C'est-à-dire que là, moi je suis triste pour un sportif qui aura simplement eu une médaille un jour, et c'est tout à l'heure ce qu'on évoquait par rapport à la vie, qui se retrouve et qui se dit j'ai commencé par la fin en marchant pour la vie, en pensant que c'est grave. Et le dernier point que je voulais évoquer, c'était pour l'introduction, 7 km, 17 km, 30 km, 33 km, 147 km. En fait, 7 km, c'est Jérusalem-Bethléem. 17 km, c'est Nazareth-Mont-Tabor. 30 km, c'est Jérusalem-Emmaüs. 33 km, c'est Nazareth-Capharnaüm. Nazareth-Jérusalem, 147. Alors, si ce n'est pas un sportif, c'est vrai, c'est simplement de l'activité physique. On est d'accord.
Donc, je reviens sur la souffrance, parce que c'est un truc qui m'a toujours Parce que bien souvent on dit, vous êtes masochiste, mm-hmm. sportif. Mm-hmm. Masochiste. Mm-hmm. Et c'est vrai que moi, ces dernières années, j'ai entendu parler de la souffrance dans le sport. Et dans l'église, il ne faut plus en parler parce que, mm-hmm. pas trop, parce que c'est masochiste ou mm-hmm. parce que si on confond la foi chrétienne avec la souffrance, avec la croix, bon. Mm-hmm. Alors que moi, je fais une distinction entre deux sortes de souffrances, mm-hmm. la souffrance positive et la souffrance négative. Il y a quand même deux types de souffrance. La souffrance négative, elle te détruit. Elle te fait mal ou elle fait mal aux autres. Alors que la souffrance positive, c'est indispensable pour progresser. C'est la souffrance de l'enfantement, c'est la souffrance pour un plus. Tu ne peux pas t'améliorer, même musculairement, quand tu tires sur tes muscles, ça te fait mal, quoi. Donc, il faut bien distinguer les deux. Et justement, même dans la théologie de la croix, moi, ça me fait réfléchir parce que il faut bien présenter comme une souffrance positive et pas comme... on souffre et parce qu'on a souffert, on a payé une dette envers Dieu et du coup on est sauvé. Enfin, il y a dans cette théologie-là, il y a encore des restes comme ça. Donc moi je distingue les deux. Bon, maintenant il y a peut-être d'autres manières de parler de ça, mais il faut faire attention quand même, bien distinguer la souffrance. Et même dans le sport, il y a une souffrance négative parce que les gaz détruisent des fois. Donc la souffrance positive, c'est celle qui te fait progresser.
Je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, Gilles. Quelque chose d'important parce que c'est la réalité d'aujourd'hui que l'on vit au niveau associatif par rapport au zapping du nombre d'activités physiques qu'il peut y avoir. On a des enfants ou des parents qui viennent, alors on s'essaye un peu à la gym, finalement c'est peut-être pas ça qu'il faudrait. Alors, on va faire du foot, on fait aussi de la danse, voire du chant choral. On a des gamins qui aujourd'hui, moi je le vois dans l'association à laquelle j'appartiens, sur Clermont, font chant choral, danse, gymnastique et tennis de table. Quand ils ont fait tout ça, je ne sais pas, bon, au niveau de... Et ce que je voulais dire, c'était justement ça qu'on ne connaissait pas avant, par rapport au patronage, et j'en reviens là, où on avait, allez, deux, trois activités, le foot, le basket, la gymnastique, éventuellement un peu d'athlétisme et tout. Là, il y a la possibilité de changer sans arrêt, ce qui fait que, c'est là où je te rejoins, au niveau du discernement ou de l'effort qui pourrait être fait sur ce sport-là me plaît et je reste avec ce sport, voire à deux. Non, on a une population de jeunes qui finalement ne fait pas l'effort, ou ne se donne pas les moyens d'aller au bout des choses. Alors on a des gyms nous, qui sont entre guillemets, qui n'ont aucune prétention au niveau des résultats, mais qui ne donnent pas non plus la possibilité d'aller au-delà d'eux-mêmes. Je voudrais des fois un peu, et sans parler de les pousser à bout, c'est pas au niveau de la fédération, c'est pas notre jar, c'est pas notre but. Voilà, c'est tout.
Oui. Beaucoup d'expérience, j'ai fait 35 marathons, 30, mais je suis très matériel, je suis très matérialiste. Et bien entendu, on appelle ça la barre des 32 km. Je disais tout à l'heure, les hommes, t'as mal, c'est bon. Mais quand je pense à Dieu, là, c'est vrai, je pense à Jésus, mais je dis, putain, lui, il a vraiment souffert. Toi, tu l'as fait librement là. Et donc, ça me permettait de franchir, sans aucun doute, et pas d'enlever ma souffrance, mais de la relativiser, là, relativement. Ce qui provoquait de la jalousie de mes collègues qui n'avaient pas terminé. Ils disaient, mais comment toi, t'as Dieu avec toi? Je dis, non. Il est aussi avec vous, mais sauf que moi j'ai relativisé ma propre souffrance, une souffrance de loisir que j'ai mis, et surtout je pensais aux gens qui sont sur les hôpitaux. Tout de suite ça me dit, eux ils souffrent vraiment, puis je ne plains pas. Je pense à ça, et dans le sport que je t'arbitre, on en prend plein la gueule pour pas, et on doit se taire. Et mais je dis, mais quand je pense que lui, sur la croix, le Christ, il s'est fait insulter, et il n'a rien dit quand même. Il n'a rien dit, il aurait pu dire, non, il n'a pas dit ça du tout, hein, on sait bien. Mais je me dis, mais bah, tout est relatif. Genre, comment la foi rentre dans mon corps? Et bien là, c'est très clair, tout est relatif, et ça donne, ça c'est un adversaire, une espèce de qualité de morale. et puis de quiétude dans la souffrance ou dans la violence.
Moi, si vous voulez, en écoutant les derniers dernières interventions, finalement, il y a une question fondamentale, c'est-à-dire quel homme, par exemple, quel homme des parents veulent construire en voulant que l'enfant fasse de la musique, du tennis, aille au scout le samedi, et puis, je sais pas, fasse une compétition de natation dimanche, enfin voilà, qu'est-ce qu'il cherche, quoi. Et pour moi, cette question est fondamentale, même dans le sport, finalement. Quel homme, quel être humain, donc, qu'on soit éducateur, quel être humain on veut construire, donc je me dis, les patronages, ben, en fait, il y a un esprit quand même qui peut être, mais voilà, qui est quand même, ben, qui s'appuie sur le Christ et qui fait qu'on va, on va vouloir la totalité, enfin, on vise quand même la réussite de la personne dans toutes ses dimensions, que d'autres viseront, ben, uniquement, voilà, à fond sur la préparation et uniquement le côté corps pour battre des records. Alors quand même, ce qui est quand même impressionnant aujourd'hui, par exemple, c'est le nombre de sportifs, par exemple, qui font de la sophrologie. On cherche des techniques aussi de bien-être pour que le corps puisse être au mieux. Donc, ils sentent bien qu'il y a il y a un rapport aussi, enfin voilà, entre le bien-être intérieur et puis et puis l'activité sportive, quoi. Mais oui, quel homme on veut. Moi, je me réjouis d'être chrétien pour ça. Enfin, parce que ça, c'est autre. Enfin, c'est pas simplement c'est pas simplement. Alors, parce que les parents, ils veulent un surhomme aussi, d'une certaine manière, un enfant parfait, quoi. Alors, je sais pas, il y en a qui sont parents et grands-parents ici. Mais... le danger de vouloir l'enfant parfait, qui malheureusement aboutit après une impasse, surtout quand on fait, voilà, fait qu'un enfant ou deux, et puis qu'il y a un problème après qui survient, quoi. Et puis en entendant tout à l'heure Gilles, pardonnez-moi, je suis un peu long, mais non. Je me posais la question aussi par rapport au corps, mais quand même aussi les tatouages aujourd'hui, après le piercing, les tatouages, qu'est-ce que ça veut dire par rapport au corps, est-ce que j'aime mon corps? Mais quand c'est, enfin quand même, il y a des tatouages, on dit bon d'accord, je l'embellis là, mais après il faut que je porte, le choix que j'ai fait jusqu'à la fin de ma vie, quoi.
Profiter à la Fédération sportive et culturelle de France, il a existé un document fédéral fondamental qu'on avait baptisé vers quel homme, par quel chemin. Et ça, alors, je suis bien content de la placer, celle-là, parce qu'il y a l'occasion de le faire. Et c'est super.
Oui, bien sûr.
Et ce document fédéral fondamental de la fédération, on l'a un peu laissé de côté, je trouve, même pas mal. Je l'ai pas emmené parce que je le traîne avec moi souvent, très souvent, mais là j'ai pris la petite sacoche et pas la grosse. Mais il avait été fait avec, alors, pour Madame de Saint-Julien et Jacques Autron, on s'est, chacun avait son idée sur ce truc, et on s'est un peu, des fois, gentiment, mais sur des termes, le terme sommet, par exemple, de faire arriver l'enfant, la personne, jusqu'à son sommet, alors... philosophé sur mon sommet. Moi, je ne suis pas un philosophe, donc pas. J'ai un sommet, c'est le sommet de la montagne. On monte en haut, terminé. Voilà. Mais je suis bien content de pouvoir la placer.
Alors, ce document, comme beaucoup d'autres documents, on les retrouve sur le site Église des Sports, dans la bibliographie.
Merci, Pascal, parce que c'est vrai que tu as fait un sacré boulot.
Kevin, c'est un beau chemin. Par quel chemin? Peut-être une dernière réflexion à vous écouter aussi. Un autre domaine ou un autre champ qui n'a pas été évoqué jusqu'à présent par rapport à l'incarnation, et ça m'interpelle aussi parce que je crois qu'il y a beaucoup, à apprendre de ce domaine-là, c'est le domaine paralympique. Parce que le domaine paralympique, on est tout de suite confronté à une sorte d'incarnation amputée, on peut le dire pour certains, Et ce qui interpelle, c'est toute la question handicap, etc. Je trouve que un des débats, en tout cas, j'ai la chance d'enseigner dans un master international qui a beaucoup d'anciens étudiants qui vont aller travailler dans le milieu du sport, les fédérations, etc. Puis j'en ai plusieurs qui travaillent à la fédération, à l'IPC, donc le Comité paralympique international. Et je sais par les échos que j'ai de ces anciens élèves que un grand débat dans la stratégie de la communication, la réflexion du mouvement paralympique, c'est comment est-ce qu'on positionne le sport paralympique? Est-ce que c'est justement l'Uberman, le super-homme, le sur-homme qui finalement a fini dans l'eugénisme des années 20-30, ou est-ce que c'est dans une réflexion des fragilités, des limites de notre corps incarné, imparfait finalement, mais dans un mouvement qui permet à tous de pouvoir participer. Peut-être c'est aussi ça un enjeu intéressant. Donc je n'avais pas forcément de réponse, mais c'était plus une question pour tout le monde, pour nous tous, à réfléchir comment l'incarnation, qu'est-ce que le monde paralympique nous dit sur l'incarnation dans le sport. Je pense que c'est une question intéressante. Et puis, j'avais une remarque un peu sur la présence réelle de l'adversaire, parce que ça m'a interpellé tout à l'heure. Et j'ai trouvé ça fascinant. Là, du coup, je me tourne vers le bibliste, parce qu'il me semble, dans le premier récit de la création, lorsque Dieu créa Ève du côté de Adam, et il me semble que l'hébreu qu'il utilisait, c'est un mot assez particulier pour parler de l'aide, parce que Dieu veut créer une aide pour Adam. Et il me semble que le mot qu'il utilisait, c'est Ezer Kenegdo, je ne sais pas.
Je ne sais pas par cœur, mais je regarderai ce soir.
Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette histoire de la création, Dieu crée une aide pour Adam, donc pour l'homme, pour la création. Mais une aide qui est, d'après ce que je comprends de la traduction de l'hébreu, le mot veut dire adversaire bénéfique. C'est-à-dire, on a un adversaire réel, dont la présence est absolument réelle, mais qui est bénéfique pour nous, à la différence de l'adversaire du diable, qui n'est pas bénéfique pour nous. C'est notre adversaire dans un combat spirituel, exactement. Mais je me posais la question par rapport à l'incarnation, ce côté adversaire bénéfique, parce que finalement, dans le sport, nous sommes tous adversaires bénéfiques.
Exactement.
Et donc voilà, je finis par ça.
Vis-à-vis.
Oui, c'est ça.
L'heure tournée, je voudrais peut-être presque conclure, parce que Monseigneur terminera.
Non.
Sur une dimension en fait spirituelle qui a une résonance particulière en moi. Alors, je suis d'une famille pauvre, vraiment voilà, pauvre. Et nombreux, 7 enfants, on a été énormément aidés par les conférences Saint-Vincent de Paul. Et pour moi, les conférences Saint-Vincent de Paul, vous voyez, c'était très incarné, c'était des chrétiens très concrets, c'était très concret. Hein, il faut aimer Dieu, pas en belles paroles et en beaux discours, mais en actes et en vérité. Et voilà, cette dimension-là de l'incarnation du sport, elle est pour moi aussi importante, parce que, je veux dire, on n'est pas façonné des chrétiens qui vont être les mains jointes ou les mains levées à non plus finir en adoration et qui sont là à dire « Yaka, Faucon, bon, non. Hein. » L'amour, c'est concret, c'est incarné. Et c'est là, je suis religieux de Saint-Vincent de Paul, voilà, donc c'est cette formule que vous connaissez pour la plupart, hein, quand Saint Vincent de Paul dit qu'il faut aimer Dieu à la sueur de notre front et à la force de nos bras. C'est incarné, hein, à la sueur de nos fronts, à la force de nos bras. Voilà, le corps est impliqué là. Hein. Je voulais simplement souligner ça, Parce que, bon, de même que Monseigneur disait que c'est triste de voir des jeunes qui sont avachis dans le canapé, vraiment, etc. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui me blesse, qui me fait très mal quand j'ai affaire à des chrétiens très moralisants, et voilà, se lamentant sur notre temps, sur notre monde. Et Yaka, Faucon, ben, on a envie de leur dire, mettez les mains dedans et allez, en avant. Hein.
Monseigneur, vous voulez peut-être conclure. Moi, je voulais encore redire quelque chose, j'en parle peut-être trop, mais moi, j'aimerais sur l'idée du surhomme. Parce qu'en fait, s'il y a ce désir-là, c'est qu'il y a quelque chose de. Il y a un désir plus profond en nous, et que le sport réalise, c'est le désir de se surpasser, se transcender, se dépasser. C'est tous les mots que les sportifs emploient tous les jours. Or, on peut très bien se dépasser en voulant être un surhomme, c'est-à-dire en voulant faire des performances que personne. Voilà, on peut se surpasser pour entrer dans un domaine plus grand que nous, qui est le domaine spirituel. Moi, l'expérience que j'ai, tout à l'heure, il y avait le mot extase, tout ça, c'est que quand tu te dépasses en sport, tu rentres dans un monde spirituel. Tu touches la vraie réalité humaine. Alors après, ben, on peut mettre des mots dessus, on peut mettre Dieu, on peut mettre une réalité spirituelle, on peut mettre d'autres choses. Mais je trouve que ça, c'est une vraie question intéressante. Cette volonté d'être surhomme, elle peut être mal aiguillée. Et c'est ce qu'on voit actuellement dans le sport, même avec les performances paralympiques, là, tout ça, où on peut se dire, mais c'est la réalité de l'homme. Seulement, il faut que tu trouves ce pourquoi tu es fait. Et tout le monde peut se dépasser. Alors que les performances, elles sont réservées à quelques-uns. Voilà. Moi, je trouve que ça, c'est intéressant du point de vue vraiment spirituel. Parce que moi, autant j'ai parlé des valeurs sportives, on peut en parler ou mettre d'autres mots, autant il y a ce désir. Le dépassement, c'est vraiment la réalité spirituelle de l'homme, que seul le spirituel peut combler. Je n'ai jamais entendu parler d'une théologie du dépassement. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu avec mes propres réflexions. J'aimerais que des théologiens en parlent. Qu'est-ce que recherche l'homme qui se surpasse, qui se transcende, qui se dépasse? Et ça, c'est le sport tous les jours.
Je crois que derrière, il y a une théologie de l'accomplissement, justement.
Oui. De l'accomplissement. Voilà, de l'accomplissement.
Dieu t'a donné des charismes pour les autres, aussi pour toi et pour les autres. Oui. Et ça, c'est à faire grandir, toi.
Oui.
Grégoire.
Là-dessus, juste pour rebondir, dans le diocèse de Saint-Denis, Monseigneur Delannoy a décidé une année sport et foi, et il a produit une lettre pastorale quoi, qui est précisément sur ce sujet-là, du dépassement. Alors, c'est un enseignement pastoral, mais ça rejoint beaucoup de choses que je pense que tu disais. Quoi. Donc, pour dire, voilà, si on veut aller chercher... Moussa, évidemment, avec une réflexion un peu plus théologique, mais surtout pastorale, mais précisément sur la question du dépassement. Parce qu'en fait, il glose aussi sur évidemment, le plus vite, plus fort, plus haut, mais en se le réappropriant.
Sans être sur ce domaine de la théologie, mais pour aller dans le sens de René, je dirais que finalement le sport, avec ce désir de se surpasser, c'est l'antidote, y compris sur le plan spirituel, au ronronnement qui nous menace tous.
On a parlé de l'incarnation, c'est intéressant bien sûr, mais justement cet aspect de surhomme, etc., ça nous parle de désincarnation.
Oui.
Et bien que je cite à plusieurs reprises dans mes écrits Irénée et Athanase, je m'interroge un peu sur le fond de leur pensée quand justement ils disent que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu.
Pour le remettre dans son contexte. Hein.
Oui,
c'est l'accomplissement.
C'est l'accomplissement.
C'est l'accomplissement.
Voilà. Je pense que c'est aussi important de venir à cet accomplissement, ce pourquoi l'un et l'autre a été fait et dû à un dessin, à un projet, effectivement.
Le projet, c'est... Enfin, qui c'est qui parlait de communion tout à l'heure?
Elle
a raison. Le but ultime, c'est la communion. Communion du genre humain avec Dieu, dans une plénitude. Peut-être que faire du sport, c'est aussi nous amener à entrer dans une communion avec nous-mêmes. Parce que finalement, aimer... Tu aimeras ton prochain. Tout le monde sait ça. Plus difficile, c'est comme soi-même. S'aimer soi-même. Mais ce n'est possible que justement sous le regard aussi du Christ, quoi, qui va m'aider à m'aimer moi-même.
Parce que c'est le plus difficile, aimer les autres, aimer Dieu, bon, on rappelle les gens, c'est quoi être chrétien? Ben oui, c'est aimer Dieu, aimer les autres. Le plus difficile, c'est comme soi-même. Mais le sport, à mon avis, justement, va participer à cette connaissance de nous-mêmes, de nos limites, voilà, et va nous amener à être en vérité devant Dieu et avec les autres.
Mais en allant au-delà, c'est là où on se décale par rapport à l'accomplissement et au projet de Dieu pour moi, et où il y a une désincarnation quelque part de la réalité pour laquelle je suis prévu au programme. Si on peut dire
comme ça. Puis il y a toute la question du virtuel dans
oui, donc, on a tout à l'heure de l'e-sport.
Ça, parce que c'est pas simplement d'être sur un divan, mais d'être tellement plongé. Les gens qui ne sont plongés que dans le virtuel, c'est, à mon avis, ça devient très. Enfin, ça peut devenir extrêmement.
Justement, il fait déjà, il fait très bien le lien avec cette soirée.
Bravo, c'est pas fait exprès d'ailleurs.
Merci à tous les trois pour.